On s'en va dans ta chronique, Alexis. Le top 25 des joueurs nés dans les années 2000 par le NHL Network. Je te laisse nous présenter ça.
Ouais, donc on commence ça en partant du bon, on va y aller quand même rapidement, mais Matthew Nyes en 25e position, Kirill Marchenko, Matvei Mishkov, Noah Dobson du Canadien qui s'y trouve, Dustin Wolf, Leo Carlson, Quinton Byfield, Luke Hughes, Moritz Seider, Brock Faber, Seth Jarvis, on arrive au 14e rang, là où se trouve Lane Hudson, Logan Cooley 13e, Cole Caulfield 12e, et par la suite Lucas Raymond, Matt Boldy, Adam Fantilli, Connor Bedard, Wyatt Johnston, Thomas Harley, Macklin Celebrini, Jake Sanderson, et pour compléter le top 3, Tim Stützle, Jack Hughes et Rasmus Dahlin. Donc, ça fait le tour pour ce top 25 qui est assez, ma foi, bien garni.
Ouais.
Beaucoup de talent là-dedans. Et évidemment, ce qu'on a noté, c'est les trois joueurs du Canadien qui s'y trouvent, Noah Dobson, Cole Caulfield et Lane Hudson. À noter que Slavkovski et Demidov n'en font pas partie. Évidemment, je pense que dans le cas de Demidov, il faut quand même être réaliste. Celui qui a seulement disputé deux matchs de saison régulière, c'est assez logique qu'il ne soit pas dans ce classement. Pour ce qui est de Slavkovski, certains pourraient peut-être remettre cette décision en doute. Pour moi, je pense que les joueurs qui sont là méritent leur place devant un Juraj Slavkovski. Toutefois, j'aimerais m'attarder peut-être un petit peu sur le cas de Lane Hudson, lui qui est au 14e rang. Et honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais tant qu'à moi, c'est un rang qui fait du sens. Surtout si on regarde les défenseurs qui sont devant lui. Rasmus Dahlin, Jake Sanderson et Thomas Harley, c'est des défenseurs qui... Oui.
Mais écoute. Je trouve Jake Sanderson surévalué. C'est peut-être moi.
Ben, honnêtement, j'ai sourcillé un petit peu aussi.
Mais quand tu regardes un gars comme Lane Hudson qui a gagné le Calder, qui a fait 66 points, qui a été voté 9e au Norris à sa saison recrue, tu le places 14e dans cette liste-là. OK, il y a d'excellents joueurs qui peuvent être placés devant lui, mais de voir Jake Sanderson au 4e rang, moi, ça me fait sourciller. J'aurais quasiment mis Lane Hudson devant.
Ben écoute, je t'avoue que Sanderson, je le trouve peut-être un peu haut. Moi, où j'ai remarqué quelque chose dans le cas de Lane Hudson, c'est plus de voir un Macklin Celebrini 5e. Moi, je te dirais que c'est ça un petit peu qui m'a surpris parce que, bon, Hudson, on se dit, OK, 14e, il a moins d'expérience dans la LNH que les autres qui sont devant lui, qui ont au moins deux saisons derrière la cravate. Toutefois, Macklin Celebrini est le seul autre joueur avec une seule saison qui se trouve devant Lane Hudson. Mm-hmm. Et c'est quand même au 5e rang. Et là, tu parles du trophée Calder, les votes. Écoute, Hudson a dominé Macklin Celebrini en termes de votes pour le trophée Calder, et là tu te dis est-ce qu'on le place presque 10 rangs devant Lane Hudson, donc dans le top 5, et Hudson qui se retrouve 14e. C'est pour ça que je te dis que moi j'ai un petit peu sourcillé à ce niveau-là, parce qu'en tant que tel, je trouve que son classement à Hudson fait du sens. C'est peut-être Celebrini que je trouve qu'on a peut-être mis un petit peu haut dans cette liste-là.
Je te suis, puis je suis d'accord avec toi qu'il aurait pu descendre quelques échelons.
Oui, absolument. Mais tu sais, on en parlait avant d'entrer en onde, c'est tellement difficile de faire des classements comme ça. T'sais, c'est des joueurs qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, qui jouent dans des circonstances aussi très différentes des joueurs qui jouent dans des équipes en reconstruction, d'autres dans des équipes beaucoup plus talentueuses. Donc, tu sais, les circonstances ne sont pas toujours les mêmes. C'est assez difficile à évaluer, mais toutefois, si on passe peut-être dans le cas de Noah Dobson, moi, ce que je me demandais, là, il est 22e sur ce classement-là, est-ce qu'il pourrait être plus haut, Noah Dobson, s'il n'avait pas connu sa mauvaise saison de l'an passé? C'est ce que je me demande, et j'y vais d'une prédiction peut-être audacieuse, mais tant qu'à moi, à la fin de cette saison-ci, Lane Hudson et Cole Caulfield sont tous les deux dans le top 10 de ce classement-là.
Oh! OK. Mais d'abord, c'est parce que je peux t'en nommer plusieurs qui pourraient être dans le top 10 de ce classement-là. Dustin Wolf, qui est 21e. Il va avoir une solide saison à Calgary encore. On a entendu Marty dans les dernières minutes. Ouais. Je pense que les Flames vont connaître une bonne saison. Je pense que Dustin Wolf va monter. Matthew Nyes, 25e, avec l'éclosion qu'il a connue l'année dernière. Matthew Nyes pourrait être pas mal plus haut dans ce classement-là, aussi pour l'impact qu'il va avoir avec les Leafs. Lui aussi pourrait se retrouver dans un top 10 la saison prochaine.
C'est certain.
Ça veut dire que tu as des hauts standards pour ces deux gars-là la saison prochaine.
Il y en a tellement beaucoup qui pourraient être dans le top 10. Tu regardes, tu sais, est-ce qu'un Moritz Seider, est-ce qu'un Brock Faber pourrait rentrer là-dedans? Peut-être même un Seth Jarvis, un Logan Cooley. Écoute, tu sais, il y a tellement de noms qui peuvent être dans le top 10. C'est là où je dis que ça devient difficile à évaluer. Mais je pense que du côté de Dustin Wolf, je suis d'accord avec toi, c'est un excellent gardien. Martin nous l'a rappelé. Écoute, il va être vraiment le point déterminant, je crois, de la saison des Flames.
Ouais.
Mais je pense que lorsque vient le temps de faire des classements de la sorte, on a toujours de la difficulté peut-être à classer des gardiens de but avec des attaquants, des défenseurs, parce que là, c'est deux positions qui sont totalement différentes. Donc, c'est vraiment d'analyser l'impact du joueur sur la formation, ce qu'il peut apporter. Et je pense que c'est là, des fois, qu'on a de la difficulté. Je pense qu'on a peut-être voulu être prudent, vu que ça fait seulement une saison qu'il est dans la LNH, mais certainement que s'il réussit encore à répéter ses exploits pour une saison complète, il pourrait là, intégrer ce top 10-là. Et parlant de joueurs qui ne sont pas dans le top 10, ouais, j'ai dénoté justement des joueurs qui ne sont tout simplement pas dans ce classement-là et qui, pour moi, sont quand même des noms qu'on a pas nécessairement oublié parce que, comme je le dis, il y a tellement de talent, donc c'était difficile de les classer, mais toutefois, des joueurs qui auraient pu mériter une certaine place là, dans ce classement-là. J'ai Marco Rossi du côté du Wild, lui, qui vient de s'entendre avec justement l'équipe là, pour 3 ans, 5 millions de dollars. Lui, c'est certain que ça a été une progression, une éclosion peut-être l'an passé en termes de points. N'a peut-être pas connu autant de succès les saisons précédentes, mais toutefois, je pense que c'est un morceau important pour les succès du Wild au poste de centre. Lui qui était très convoité cette saison, justement, cet été, en fait, là, sur les marchés des joueurs autonomes avec compensation. Sinon, j'ai William McLoone aussi du côté des Sharks qui, lui, vraiment, est en pleine éclosion.
Une seule saison de jouer, lui aussi, par contre.
Non, plus que ça.
William McLoone?
Plus que ça.
Ah, mon erreur.
Là, attends, là, je sais que c'est plus qu'une, là, mais là, c'est statistique en tant que telle. Ouais, je ne les ai pas devant ça, moi, je vais aller t'y chercher.
Dans ma tête, c'est
il a joué sa deuxième saison complète. Deuxième il avait joué 9 matchs en 21-22, 8 l'année d'après, mais après ça, ça a été 80 matchs et 77 l'an passé. Il est passé de 45 à 58 points, mais il ne faut pas oublier que William McLoone, à sa première saison, il n'avait pas Celebrini, il n'avait pas Will Smith à ses côtés. Il était vraiment seul sur son île.
Pour ça qu'on a plus ou moins entendu parler aussi de Will Eklund après la saison 23-24. Mais là, le duo dynamique qu'il a fait avec Celebrini aussi, c'est pour ça qu'il éclot de plus en plus.
Ben, c'est pour ça. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je dis qu'il aurait peut-être pu mériter sa place parce que je trouve que ce qu'il a été en mesure de faire avant l'arrivée d'un Celebrini, ça a quand même été notable. Et là, maintenant, je crois que ça peut juste aller toujours en progression dans son cas. Donc, c'est pour ça que je l'ai dans mes 5 oubliés. Sinon, Andrei Svechnikov, c'est quand même un gros nom du repêchage de 2018, si je ne me trompe pas, 2018, avec les Hurricanes de la Caroline. Écoute, lui, c'est certain là, qu'il a souvent été blessé dans sa carrière. Je ne sais pas si c'est la raison pour laquelle on l'a sorti de ce classement-là, mais t'sais, il a eu de la difficulté à disputer des saisons complètes, mais toutefois, en termes de points sur la patinoire, il a souvent été près du point par match dans ses saisons. Lorsqu'il disputait à peu près 65 matchs, ramassait 58-59 points. Donc, c'est quand même un joueur qui produit beaucoup, surtout en séries éliminatoires aussi. Il est capable d'amener son jeu à un autre niveau pour les Hurricanes. Donc, c'est un joueur qui, je crois, aurait peut-être pu être dans ce top 5. Sinon, mes deux derniers sont des membres du Mammouth de l'Utah. J.J. Ouais. Paterka, récemment acquis des Sabres de Buffalo. Lui, il est en véritable éclosion depuis 2 ans et un marqueur de but naturel dans son cas. Et je crois que vraiment, là, avec un nouveau départ dans une équipe bourrée de talents, ouais, de jeunes talents, surtout comme le Mammouth, il pourrait encore plus éclore cette saison et vraiment là, s'avérer un morceau important au succès de cette équipe-là. Et en première place, eh bien, j'ai Dylan Gunter, lui qui, tant qu'à moi, c'est le plus grand oublié de ce classement-là. Je l'aurais honnêtement intégré facilement là-dedans parce que c'est un joueur qui peut-être sous-estimé. On en parle peut-être pas assez de Dylan Gunter, je trouve, mais partout où il a passé, il a connu du succès. Il avait été un morceau important au championnat mondial junior pour le Canada il y a de cela quelques années. Et là, du côté de l'Arizona, il avait été excellent avant que l'équipe déménage à l'Utah. Et encore cette saison, il a vraiment été le meneur offensif de cette équipe-là derrière un Clayton Keller. Donc, lui, c'est vraiment un joueur en pleine progression, qui a signé un long contrat à long terme avec l'équipe, qui va être un des plus hauts salariés. Donc lui, vraiment, là, je m'attends encore une fois une belle saison de sa part cette saison. Et je pense qu'on l'a peut-être oublié dans ce top 25.
Alexis, merci pour ta chronique. C'est très pertinent. C'est un classement dont on aurait pu jaser pendant des heures et des heures.